Mai au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir de partager ces 57 minutes interactives avec nous dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le chef militaire du mouvement rebelle M23, Sultani Makenga, qui était actif dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, s'est rendu et serait actuellement détenu en Ouganda. Selon un officier ougandais, il sera jusqu'à la signature de l'accord de paix avec la RDC. Toutefois, Sultani Makenga vient de rallonger la liste des officiers de la RDC ayant commandé les différentes rébellions et réclamées par la justice congolaise et internationale. Comment commentez-vous cette actualité? Composez les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nous disons merci à Titi Poutou, Nadine Foula et Hérité Siliakala pour la réalisation de cette émission. Notez que Gérard Nguembo présente ce programme et le coordonne sous la supervision de Nicole Gaga. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Maître Guy Mouchata qui est chargé de programme lutte contre l'impunité et justice réparatrice et transitionnelle au Centre international pour la justice transitionnelle en RDC. Merci beaucoup Maître Guy d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, comment vous commentez d'abord cette actualité?
Bon, il faut dire que effectivement, depuis un certain temps, l'est de notre pays est devenu une poudrière et que ceux de nos compatriotes qui prennent des armes, justement, se réfugient dans les pays voisins pour échapper, n'est-ce pas, à la justice. Et nous pensons certainement qu'avec ce qui vient de se passer les semaines dernières, on mettra en avant-plan cette question de la justice pour finalement arrêter avec ce cycle de violence. Parce que l'impunité, effectivement, attise la violence à l'est du pays et sinon dans l'ensemble de notre territoire.
Est-ce que l'extradition de Makenga Sultani peut être évidente ou ça peut être possible?
Ça peut être possible que lorsque, d'abord, il y a une convention d'extradition, mais surtout, ça peut être possible à la suite de la volonté, justement, de ceux qui sont responsables des pays des Grands Lacs, de vouloir, en fait, mettre fin à toutes sortes d'impunités, surtout l'impunité qui concerne les crimes graves, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et on sait, justement, que les discussions jusque-là avaient achoppé sur cette question d'impunité. Et nous espérons tous que l'accord éventuel qui pourrait être signé ne reviendra pas sur cette question. Pour que ceux, effectivement, qui se permettent de prendre des armes ou de faire la guerre, et sont, ne puissent pas demeurer impunis. Parce que, effectivement, même en temps de conflit armé, il y a des règles du droit international qui sont d'application. Et nous avons là les conventions de Genève qui doivent gouverner l'action de ceux qui font la guerre. Et s'ils ne respectent pas les dispositions qui garantissent la protection des populations civiles, ils doivent nécessairement répondre de leurs actes, n'est-ce pas, devant la justice.
Alors, Maître Guy, au regard de la position de pays d'accueil de l'ancien rebelle Kunda Bantouare, après qu'il soit rendu, bon nombre de Congolais craignent que, en fait, le même film puisse se reproduire. Aujourd'hui, c'est vrai, ce pays-là a refusé d'extrader ce chef militaire rebelle. Aujourd'hui, avec Sultani, ça pourrait être pratiquement la même chose.
Revenons d'abord sur le cas de Laurent Kunda. Ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda a évoqué le fait que la RDC appliquait la peine de mort, mais surtout qu'il n'y existait pas une convention d'extradition judiciaire entre le Rwanda et la RDC. Et dès lors, le Rwanda s'est réservé le droit de ne pas extrader Laurent Nkunda. Mais ce qui est malheureux, c'est que le droit international impose aux États, s'ils ne veulent pas extrader les coupables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, disons bref, des violations graves des droits de l'homme, que eux-mêmes prennent la responsabilité de pouvoir les traduire devant leur justice. Et je constate avec amertume que le processus judiciaire, soi-disant le processus judiciaire qui était entamé au Rwanda à l'encontre de Laurent Nkunda, n'a pas non plus lui abouti, à moins que vous me donniez une autre version de l'information. Jusque-là, on sait que rien de sérieux ni de concret n'a été envisagé et mené à bon terme au niveau de la justice rwandaise à l'égard de Laurent Nkunda. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui avec le M23, il est effectivement fort à craindre qu'une telle situation puisse se répéter. Mais nous ne pouvons pas nous plonger dans le futur. Il faut, à mon avis, de la part du gouvernement congolais, essayer de lever toutes les barrières, je dirais, soit diplomatiques ou autres, qui peuvent empêcher que de telles décisions soient prises par des pays voisins, mais qu'effectivement ceux qui sont recherchés par la justice nationale puissent être extradés et poursuivis devant elle, afin de garantir, n'est-ce pas, la cessation de l'impunité pour les violations graves.
Oui, mais qu'est-ce qui justifie alors la rapidité avec laquelle les dossiers Bosco Ntaganda a été exécuté, donc la coopération, voulais-je dire, entre le pays d'accueil et la justice internationale?
D'abord, il faut dire que le dossier Bosco Ntaganda, il était en quelque sorte assez flou. Ce dernier était déjà poursuivi depuis très longtemps par la justice internationale, entendez par la Cour pénale internationale. Nous connaissons tous la péripétie de la collaboration entre la RDC et la Cour pénale par rapport à ces dossiers. Et puis tout d'un coup, c'est lui-même qui, semble-t-il, se serait rendu. Et dès lors, il a été extradé. Peut-être nous pouvons dire que le fait que ce soit la Cour pénale internationale qui est en charge de son dossier a pu peut-être permettre un certain nombre de pressions de ça et là pour que ce dossier puisse avancer. Et cela a été juste au moment où, en fait, il a été aussi affaibli. Et nous pensons que ça pourrait être un dénouement heureux par rapport à ce dossier que la Cour soit saisie de Bosco Ntaganda de telle sorte que les victimes puissent justement avoir la possibilité de pouvoir raconter leur histoire, de pouvoir participer à cette procédure et que lui, il puisse aussi avoir la possibilité de se défendre par rapport aux faits qui pèsent sur lui.
Alors, considérant, disons, nos sources, aujourd'hui, si jamais la position de l'Ouganda qui parle au fait d'extrader, la possibilité d'extradition de Sulutani, que juste après l'accord de paix que sera signé entre le gouvernement congolais et le mouvement M23.
Mais je pense que ça, c'est une décision typiquement politique. Et à proprement parler, je n'ai pas de commentaire particulier parce que là, c'est un État qui décide et qui donne sa position. Mais ce qui est évident, c'est que cet État dispose aussi de l'obligation d'extrader la personne qui est censée être auteur d'un certain nombre de violations graves qui pèsent sur elle, et sinon de pouvoir procéder, n'est-ce pas, à son jugement par devant ses tribunaux. Nous allons voir, parce que je pense que cet accord, il a été promis qu'il va être signé au courant de cette semaine, et nous saurons tous quelle sera la position que l'État ougandais prendra par rapport à ces dossiers.
Alors nous rappelons que cet accord sera signé aujourd'hui, pratiquement selon nos sources. Et nous allons, comme vous l'avez dit, attendre la suite pour nous fixer là-dessus. 081-890-4969. Nous vous gardons en ligne, Maître Guillaume Mouchata. Et nous allons prendre la première série des auditeurs avec Maître Guillaume qui est à Bounia et Arsène qui est à Kikwit.
Parole aux auditeurs.
Maître Guillaume, vous êtes à Bounia, bonjour.
C'est une confusion de la rédaction, bonjour Richard, je suis à Magui.
Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre, Maître Guillaume, vous êtes à Magui. Vous avez la parole.
Oui, Richard, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la vérité, bonjour à l'invité. Aujourd'hui, si Makenga est en Ouganda, monsieur Gier, cela montre que la guerre est rentrée là où elle est venue. Donc, si nous comprenons bien, il faut aujourd'hui signer un accord, il faut aujourd'hui inviter de signer un accord secret qui sera comme un virus peut-être après toi.
Voilà, maître Guillaume, parce que vous êtes maître Guillaume, s'il vous plaît, parce que vous êtes le premier auditeur, nous parlons de l'extradition, c'est-à-dire nous avons comparé, nous avons dit dans notre introduction que Sulutani Makenga vient de rallonger la liste des officiers de la RDC ayant commandé les différentes rébellions et réclamé par la justice congolaise et internationale. Est-ce que vous pensez que cela peut être possible, qu'elle soit extradée suite aux propos par exemple de certains officiers ougandais et au regard même de la situation qui s'est passée avant, la situation donc celle de Laurent Nkunda qui est encore détenu au niveau du Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est possible l'extradition de Sulutani Makenga?
Mon cher frère, je ne peux pas confirmer. En tout cas, il faut dépasser le sentiment personnel. Mon cher Gilles, matin, midi, soir, nous opérons sur la situation de l'Est, avec l'État LR, avec l'État MDNR. Donc, l'Ouganda, les Rwandais ne peuvent pas extrader ces gens-là. Récemment, ici, pour un exemple très concret, au niveau même de la rédaction CAPI, le commandant du premier secrétaire, le colonel Richard Bissamaza de Beni, récemment, il a été arrêté, mais jusque-là, est-ce qu'on peut se poser la question si notre au Congo? Donc, je crois qu'aujourd'hui, les M23 sont morts, mais leurs revendications aujourd'hui restent à Kampala, comme les musiciens qui ne meurent pas à travers leurs œuvres. Donc, il reste beaucoup à faire à nous, les Congolais. Si je continue, la guerre, c'est une politique. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Le but de la guerre, c'est la politique. La paix, nous la voulons tous, JR. Le chef de l'État lui-même avait dit que la victoire militaire ne permet pas de régler les problèmes du Nord Kivu. Et puis le président du M23 dans un communiqué, il a dit que le M23 n'a pas pris les armes pour servir sous un drapeau national. Alors avec ça, on ne peut pas dire que le M23 ou le Kwala ou le tout ça, ces officiers-là qui sont là seront extradés au Congo, là, en tout cas, là ce n'est pas une
table. C'est trop rêvé.
Là ce n'est pas, vraiment ce n'est pas une table à manger. Donc en tout cas, nous devons éviter d'utiliser cette phrase. L'Ouganda et l'Ouganda et le Rwanda ont bénéficié beaucoup à travers le M23 et continuent toujours à bénéficier avec les autres éléments encore qui sont toujours au Congo.
Merci beaucoup, maître Guillaume, d'avoir appelé de Mahagi. Là, nous sommes dans la province orientale. Merci beaucoup. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, à mon avis, je dirais ceci. Il faut voir d'abord, avant de parler d'extradition, il faut voir la relation qui existe entre ces rebelles qui ont pris asile en Ouganda et la relation qui existe entre l'Ouganda et notre pays. Il y a des relations entre États et il y a des relations entre État et organisations criminelles. Faut-il dire que les bonnes relations sont entre États ou bien les bonnes relations sont entre des organisations criminelles? Moi, je dirais ceci. La position que prend quelques officiers de l'Ouganda vis-à-vis de la décision d'extradition démontre clairement que la relation qui existe entre l'État congolais et l'État ougandais n'est pas mieux que les relations qui existent entre l'État ougandais et ce groupe criminel. Aujourd'hui, notre État ne peut pas commencer à négocier au même moment avec l'État ougandais, au même moment avec les rebelles, si on cherche à trouver une solution et que cette solution doit venir d'un accord. Accord avec qui? C'est l'État congolais qui prend des accords avec un groupe criminel, alors l'office que les officiels de l'État congolais deviennent des commanditaires de ces crimes. Parce que pour moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a aucun accord à prendre avec ces criminels-là. Ils doivent être traduits en justice.
Je crois qu'Arsène, il faudrait préciser une chose. Le gouvernement congolais est autour d'une table avec le mouvement M23. Vous le savez, c'est par rapport aux revendications de mars, du 23 mars. Et je crois qu'ils ont fait plus de 8 mois, si mes calculs sont bons. Voilà, pour revoir ou passer peine fin tous ces points ou toutes ces revendications de ce mouvement. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement militaire et de côté, il y a aussi l'approche politique et diplomatique également. Je crois que c'est à ce niveau-là que se poursuivent d'autres approches telles que prônées par le chef de l'État. Je crois qu'à ce niveau, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, la déclaration, selon les propos du ministre des Affaires étrangères, disons, la déclaration finale sera faite ou l'accord sera signé aujourd'hui, sauf imprévu. Donc, nous suivons tous l'actualité et on en saura dans les heures qui suivent. C'est le résultat que cela peut produire. Donc, les concertations ont produit. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé Toto Kani qui est à Kinshasa. Nous vous accueillons. Bonjour, Toto Kani.
Bonjour, monsieur.
Voilà, vous avez la parole. Si vous pouvez hausser votre voix, s'il vous plaît.
Oui, je vous réponds. Merci, je vous écoute. Bonjour.
Bonjour, parlez un peu fort et puis éloignez-vous de votre poste récepteur.
Oui. Oh, je suis en train de m'éloigner, merci. Ça y est.
Voilà, éteignez carrément votre radio. Parce que ça fait un mauvais retour, on ne saura pas vous retenir le plus longtemps. Donc voilà, le temps que votre ligne puisse se rétablir, on va revenir à notre invité, Maître Guy Mouchata. Vous êtes encore avec nous, Maître Guy?
Oui, je suis là.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure les deux premiers intervenants. Comment réagissez-vous par rapport à leur point de vue?
Bon, je remercie d'abord Maître Guillaume et M. Arsène. Je pense que pour Maître Guillaume, c'est plus l'aspect politique qu'il essaie d'aborder. Mais je pense que aussi ce qu'il dit n'est pas complètement faux ou vrai. Il est indiqué que l'extradition a une dimension politique et que peut-être au regard des accointances entre le gouvernement ougandais, tel que ça a été dit dans la plupart des rapports même des Nations Unies, que ces pays-là avaient une sorte d'appui à ce mouvement du 23 mai, il se pourrait qu'éventuellement un tel processus soit biaisé au niveau de l'extradition des membres du M23. Mais globalement, je pense que le processus doit être enclenché par le gouvernement congolais lui-même. Il faut qu'il y ait un mandat qui soit lancé, et que ces mandats soient transmis en bonne et due forme par la voie diplomatique faisant la demande d'extradition de la personne et qu'on attende une réponse appropriée du gouvernement. Et si cette réponse n'arrive pas, je pense qu'entre États, il existe des mécanismes pour arriver à dénouer un tel processus. Donc je ne pense pas que pour le moment, il serait peut-être très tôt de dire que le gouvernement ougandais n'a pas réellement la volonté de traduire les membres du M23 qui sont recherchés par la justice congolaise, de les traduire donc devant cette justice. Ça serait peut-être très tôt. Mais dans l'ordre des possibles, effectivement, il est possible qu'il y ait des présenteurs politiques qui puissent jouer et en défaveur de cette extradition à cause de ces liens qui a pu exister ou qui existe encore entre ces mouvements et avec les autorités de cet État.
Oui, Maître Guy Mouchata, disons, à croire le déclaration ces derniers temps par rapport aux avancées très significatives des forces armées congolaises, vous pensez qu'effectivement, parce que au fait, le gouvernement qui a insisté la non-intégration ou encore les anciens militaires rebelles qui ne peuvent pas être récupérés dans l'armée congolaise, n'est-ce pas là déjà une position qui est exprimée pour dire, eh ben voilà, ces gens-là doivent répondre de leurs actes?
Mais je pense que du point de vue du gouvernement, lorsqu'il veut lutter contre l'impunité, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais ce qu'il faut éviter aussi, c'est de faire l'amalgame. Il faut renforcer la justice, vraiment prendre cette justice pour qu'elle soit digne de distribuer une justice qui soit équitable, que ces personnes qui sont poursuivies puissent effectivement avoir les moyens de répondre devant cette justice en disposant des moyens de défense. Et dans ce sens-là, je pense qu'on éviterait peut-être l'amalgame ou de faire une chasse aux sorcières. Mais les besoins de la justice, les besoins de la lutte contre l'impunité est vraiment indispensable pour mettre fin
à tous ces mouvements de rébellion qui naissent à l'Est, mais surtout, de notre perspective, aux violences qui les accompagnent et qui entraînent la commission de très graves violations des droits de l'homme. Comme vous savez, la RDC est l'un des pays où, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a connu de tels types de violences entraînant des millions de morts. Donc, il est important que, de manière vraiment définitive, la justice puisse jouer son rôle de consolidation de la paix, sinon de sa construction.
Voilà, nous allons découvrir quelques messages, hein, si vous le permettez, Maître Guim Mouchatin. Comme ça, on va commenter ensemble avec vous. Archange Olela, depuis Kisangani, dit ceci: je suis ravi d'entendre que Sultani Makenga serait en Ouganda. Et il nous facilite d'ailleurs la tâche. Museveni a signé l'accord cadre. Il doit l'extrader en RDC pour prouver sa bonne foi et respecter sa signature. Parfois, les solutions nous tombent toujours du ciel. Augustin Djamba, depuis Kananga: le gouvernement congolais doit demander son transfert à la haie, comme c'était le cas avec Tangada. Le rescapé Makenga ne peut pas bénéficier d'un quelconque privilège de cet accord, car il faisait la sourde oreille au début des négociations. D'où les Yedoko: cet homme doit répondre devant la justice de tous les crimes commis. Les Congolais ne sont pas des animaux. Nadine Tiba: le gouvernement congolais donne à notre gouvernement, ougandais doit donner à notre gouvernement ses rebelles. Si tel n'est pas le cas, donc il prépare une autre rébellion. Andy Kambale Kampala doit prouver sa bonne foi en accord avec l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Sultani Makenga, responsable militaire du M23 du mouvement rebelle, auteur des crimes, doit être remis aux autorités congolaises. Comment vous réagissez, Maître Guy Mouchata?
Merci beaucoup, mais on voit nettement ce que nous constatons de la part de l'ensemble de la population congolaise depuis déjà très longtemps, et pas seulement pour les rébellions qui ont eu lieu récemment, notamment celle du M23, mais pour les rébellions aussi des années 90. Il existe encore des millions de victimes qui réclament justice. Et là, justement, c'est une occasion pour nous de dire à notre gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme judiciaire qui puisse justement répondre à cette violence du passé et pas seulement à la violence récente. Parce que les victimes actuelles ne sont pas plus victimes que celles qui ont été victimes dans les années antérieures. Il faut une réponse globale et un renforcement de la justice en ce qu'elle soit capable de donner une réponse adéquate aux violations les plus graves que nous avons connues. Ce n'est que par cette mesure-là qu'on arrivera à constater que l'État prend soin de pouvoir protéger ses populations et prend soin de garantir l'accès à la justice pour celles qui ont été donc exposées à des violences. Et je ne pense pas que le réveil ou la recherche de la justice pour l'État ne doit être que pour les responsables actuels de ces violations. Lorsque vous regardez les violences qui se sont passées à l'est de la RDC, vous avez seulement une infime partie des personnes qui sont poursuivies aujourd'hui par la Cour pénale internationale ou qui l'ont été peut-être au niveau de notre justice militaire. Je vais parler principalement en ce qui concerne des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité aussi. Mais le grand nombre de ces criminels n'ont jamais été poursuivis. Donc pour nous, nous sommes tout à fait d'accord en tant qu'activistes avec le gouvernement pour dire que justice doit être faite, mais nous ajoutons aussi que cette justice ne doit pas seulement concerner les événements les plus récents, cette justice doit remonter et concerner aussi les autres victimes. Si vous prenez un rapport aussi important qui a été publié par les Nations Unies qui fait la cartographie des crimes qu'on appelle communément les mappings, les rapports mapping des Nations Unies sur les violations graves qui ont été commises entre 1993 à 2003, vous allez être ahuri par le summum de violences qu'on a pu atteindre dans ces pays à travers l'ensemble de la République. Mais quelle est la réponse que donne notre gouvernement? La Cour pénale internationale, comme disait un des auditeurs, c'est bien. Mais nous pensons qu'une réponse la plus efficace et la bonne doit venir de notre État par les renforcements de la justice, notamment en mettant en place des mécanismes capables de prendre un tel contentieux en charge, mais aussi en dotant ces mécanismes des moyens, des moyens matériels, mais aussi des moyens humains.
Maître Guy Mouchata, nous vous gardons encore en ligne et nous rappelons que vous êtes chargé de programme lutte contre l'impunité et justice réparatrice et transitionnelle au Centre international pour la justice transitionnelle. Nous accueillons Toto Kani à Kinshasa et Maître Adria Kananga. Maître Adria, bonjour. Maître Adria, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup, JR, pour la parole que vous m'accordez. Comment est-ce que je réagis par rapport à l'actualité de l'heure? Premièrement, JR, j'ai suivi les porte-parole du gouvernement sur BBC. À l'entendre, c'est comme si il est en train de donner une leçon diplomatique à notre pays. Premièrement, le monsieur a dit non seulement qu'il n'y a pas encore un mandat d'arrêt provisoire établi en bonne et due forme par le gouvernement congolais. Deuxièmement, non seulement que le gouvernement congolais a eu à demander l'extradition de tous ces gens-là en bonne et due forme. Troisièmement, le gouvernement ne nous a pas transmis la liste de toute personne incriminée qui se trouverait dans notre sol. Par rapport à cela, JR, je pense que c'est très important. Pour d'aujourd'hui, on ne peut pas opposer, comme je viens de l'entendre, on ne peut pas opposer à l'Ouganda pour lui dire non, écoutez, il faut respecter l'accord donc d'Addis Abeba. Je pense qu'il y a des instruments donc juridiques qui existent, il y a des accords internationaux qui ont été signés par les deux pays. C'est question qu'on puisse vérifier d'abord si il existe un accord signé entre la RDC et l'Ouganda en matière d'extradition. Ça, donc, le point de départ. Et puis, deuxièmement, moi, je me dis que notre tort, nous, en tant que Congolais, c'est d'être toujours pressé aux événements, d'aimer beaucoup parler avant de faire d'abord n'importe quelle procédure. Parce que, dans le cas d'espèce, il se pose un sérieux problème de la procédure. Nous sommes sur la forme. Est-ce que nous avons fait de telles demandes? Si ces demandes-là ont été faites, est-ce que il y a vraiment des instruments juridiques, il y a des accords signés entre les deux pays pour qu'on puisse transférer qui que ce soit. Donc c'est par là qu'on saura quel pays est de mauvaise foi ou pas. Donc d'entrée de jeu, je me demande comment est-ce qu'on peut qualifier déjà un pays de mauvaise foi. Et même si le traité d'Addis Abeba n'est pas opposable à ce pays-là,
oui, maître,
la charnière pour vérifier si l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont déjà signé un accord dans ce sens-là en matière d'extradition de criminels. Voilà vraiment, j'ai là où réside le vrai débat.
Oui.
Pour le reste.
Oui, maître Adria, voilà, je ne sais pas, maître Adria, vous êtes encore en ligne. Voilà, maître Adrien, voilà. Donc je crois que on va encore laisser maître Adrien qui continue à parler, oui.
Ce pays-là est de bonne ou est de mauvaise foi.
Voilà, maître Adrien, une question aujourd'hui, c'est vrai, à en croire les déclarations des uns et des autres, je vais parler de déclarations faites par certains officiels ougandais et aussi, disons, certains officiels ougandais d'une part et certains officiels congolais d'autre part. Est-ce que vous êtes sûr qu'effectivement, s'il y a ce problème d'extradition, ça sera possible?
Oui, je pense que ça sera possible, parce que c'est ça même tous les débats hier. C'est ça tous les débats, parce que le gouvernement ougandais s'est dit, mais par quel mécanisme juridique allons-nous répondre à tout ce que nous suivons donc sur les chaînes de radio et de télévision? Parce qu'il n'y a pas des écrits, il n'y a pas de demandes, sinon on risque de jeter l'anathème sur nous pour dire, voilà, nous on ne vous avait pas demandé l'extradition de ces gens-là. Pourquoi vous les avez envoyés au cas où il y aurait même des incidents sur ces gens?
Voilà.
Parce que
merci,
ce sont des
beaucoup.
Gens qui sont haïs par la population congolaise. Voilà, la prudence exige qu'on puisse demander, donc on puisse écrire
officiellement,
je l'ai dit bien, et puis, donc l'écrit GR à lui seul ne suffit pas. Il faut vérifier s'il y a un traité signé par les deux pays dans ce sens-là. Sinon, s'il n'y a pas les deux.
Voilà, on va voir avec notre invité les dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que plusieurs pactes de paix signés au niveau de la région et de la sous-région, cela ne donne pas des possibilités à cette démarche-là. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé de Kananga. Totokani, on va encore une fois essayer, votre ligne, ça va. On va essayer. Totokani, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, merci, JR, de m'avoir accordé la parole. D'ores et déjà, laissez-moi vous dire que le monsieur Sultan Ibakenga et toute sa bande ont pris fuite devant la force combien importante que leur a imposée le dauphin de ses voyants militaires. La suite ne pouvait qu'être logique. Il s'est enfui d'où il venait. Il a fait preuve une fois de plus que c'est l'Ouganda qui le soutenait. Il y a une partie qui est allée vers le Rwanda. Là, ça réconforte encore une fois la position, l'argumentaire de la RDC qui disait à haute et intelligible voix que nous étions agressés par les deux pays voisins. Le fait d'être parti en Ouganda ne lui retranche rien du tout du fait de sa culpabilité, avérée dans le massacre qu'il a commis à l'est du pays depuis tout le temps. Ils ont été retrouvés dans plus ou moins plus d'une mutinerie, plus d'une rébellion. Il a laissé derrière lui du sang en train de couler sur les collines du Nord Kivu. D'autant plus qu'il est en Ouganda, j'estime pour le prestige déjà.
Oui, Totokani. Oui, Totokani, s'il vous plaît, parce que là il faudrait préciser, le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Akunda, avait indiqué que parmi les 1500 combattants qui sont rendus à l'armée ougandaise, aujourd'hui, il a dit, je répète ses propos, je ne suis pas au courant de la présence de Sultani Makenga parmi eux. Ben voilà, donc jusque-là, il y a toujours des possibilités qu'il se retrouverait là-bas, mais pas ensemble avec les 1500 combattants, à croire les propos de porte-parole de l'armée ougandaise.
Oui, merci pour ça, mais vous trouvez là que c'est une façon de se disculper. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il était là-bas à la tête d'un certain nombre de ses lieutenants. Aujourd'hui, quand ils doivent, c'est une preuve de versatilité qui ne pousse à rien du tout, si ce n'est qu'au manque de sérieux. Au manque de sérieux du gouvernement ougandais, permettez-moi. D'autant plus que tout le monde sait que Sultani Makenga se trouve en Ouganda, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Nous, on a appris ça. Deux. Maintenant là, c'est une façon de ne pas vouloir l'extrader. Comment vous pouvez comprendre qu'on a parlé de quelques millions de Rwandais qui ont tué lors de massacre du génocide, de tout cela, mais qu'on essaie de fouler aux pieds des millions de morts congolais? J'estime qu'il y a tous les outils juridiques internationaux, nationaux, l'Ouganda, qui est du reste membre de la CIRGL, qui, par surcroît, est en train de faciliter la signature des accords entre le M23 et la RDC, ne peut faire mieux que de nous extrader ce monsieur-là.
Merci beaucoup.
On n'a pas besoin de plus que ça. Ce monsieur et tous ceux qui sont réellement congolais.
Merci beaucoup, Totokani, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout merci de votre contribution à ce débat. Papy, vous êtes à Béni. Merci. Nous vous accueillons. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez la parole, quel est votre point de vue?
Je voudrais dire ceci, pendant que la guerre s'est passée ici à l'Est, nous avons suivi les déclarations de notre gouvernement au travers de notre ministre de la Communication qui avait dit que les militaires, les MV3 sont des marionnettes du Rwanda et de l'Ouganda. Alors je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là qui avaient armé le M23, et quand le M23 avait pris fuite au niveau du Rwanda et au niveau de l'Ouganda, alors moi je ne sais pas comment est-ce que, quels sont les mécanismes à prendre pour que ces gens soient extradés ici à la République démocratique du Congo, d'autant plus que ces gens ont été soutenus par ce même pays. En tout cas, moi je n'entends rien comme extradition de ces gens vers la République démocratique du Congo. Entre-temps, il y a également la déclaration qui diverge de partout. Il y a la déclaration de la mère même qui dit qu'on ne peut pas signer un accord politique entre les M23. Et la communauté internationale dit quoi à travers M. Kobler, je l'ai suivi ce matin, il a dit quoi? Il a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'un accord politique soit signé. Si je rentre encore au cas de M. Kunda Kundabatware, qu'est-ce que vraiment la communauté internationale ne peut pas faire pour que M. Kunda ne soit pas remis entre les mains de la justice congolaise, en dépit de tous les crimes qu'il a causés ici à la République du Congo, précisément en 2008, quand il était en activité au niveau des Kiwanja là-bas. Il y a des fausses communes qui ont été découvertes par les gouverneurs des provinces et d'autres experts des Nations Unies qui ont été présents, mais moi je ne comprends pas comment est-ce que ces gens ne peuvent pas être poursuivis par la communauté internationale et leur point de vue sur les fausses communes qui ont été découvertes au niveau de Kibumba là-bas. Et on dit que ces fausses communes datent depuis longtemps avant
l'occupation. Voilà, papy, s'il vous plaît, ne faisons pas de l'amalgame. C'est vrai que nous avons compris que vous en appelez à l'implication de la communauté internationale dans la lutte contre l'impunité de tout ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, en évoquant également la fuite de Laurent Kunda Batware. Vous exhumez ces dossiers pour qu'on consente quand même que cette lutte-là intéresse aussi la communauté internationale, qu'on puisse extrader et Kunda Batware et d'autres chefs rebelles qui ont dû diriger les différentes rébellions au niveau de l'Est, qui ont commis en tout cas plusieurs crimes contre l'humanité, qu'ils puissent être jugés et disons extradés pour répondre de leurs actes devant la justice soit congolaise ou la justice internationale. Merci beaucoup papy d'avoir appelé. William, vous êtes à Kalemi. Bonjour William.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, vraiment, c'est pour moi une opportunité favorable de passer sur votre antenne aujourd'hui. En ce qui concerne la situation de monsieur Makenga qui se trouve actuellement en Ouganda, pour moi, je trouve que, au temps actuel, la République démocratique du Congo doit montrer la capacité maintenant de sa diplomatie. Donc, la République démocratique du Congo doit entamer une diplomatie active et non une diplomatie passive que nous avions constaté avec la situation de M. Kunda Batware au Rwanda. Alors, sur ce point-là, je voudrais savoir maintenant, est-ce que entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il y a un accord d'extradition qui existe? Et si c'est oui, je vais vraiment demander à la République démocratique du Congo d'être présent, de s'ouvrir cette situation à la loupe pour que ces criminels soient extradés et jugés sévèrement compte tenu de ces actes, parce que personne n'ignore que les morts sont plus comptés à l'est du pays et ces messieurs doivent répondre à ces actes. Ça, c'est la première dimension de mon intervention. Deuxième, c'est en ce qui concerne l'accord qui va se réaliser aujourd'hui ou se signer aujourd'hui en Ouganda. Je voudrais savoir pourquoi signer encore l'accord.
Voilà, malheureusement, William, on n'est pas là parce que la question, la thématique du jour n'est pas si on doit, oui ou non, on doit signer cet accord ou pourquoi, quel doit être le contenu. Nous parlons de l'extradition. Nous avons dit en début de cette émission que, au fait, la reddition ou Sultani Makenga qui s'est rendu en Ouganda rallonge une fois encore la liste des chefs rebelles qui ont eu à commander les différentes rébellions qui ont été actives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce possible, d'après vous, qu'elle soit extradée aujourd'hui pour qu'elle puisse répondre de ses actes auprès de justice nationale ou encore au niveau de la justice internationale? Merci beaucoup, William, d'avoir appelé à Kalemi. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour JR et bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, Marcel.
Oui, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord préciser que en droit international, et surtout en matière de traités et accords internationaux, le principe est bien connu, c'est le principe du pacta sunt servanda, c'est-à-dire les États, une fois ratifiés des traités et accords internationaux, ils doivent respecter ces traités-là par la bonne foi. Et maintenant, s'agissant de la bonne foi de l'Ouganda, ce qui concerne l'extradition, quand bien même le gouvernement congolais peut en solliciter, en tout cas, eu égard aux enjeux que nous connaissons autour de ces différents groupes armés dont l'Ouganda lui-même soutient, et ça nous laisse un peu de doute ou des zones d'ombre que l'Ouganda paie, quand bien même la RDC l'aurait bien voulu souhaiter que Makenga et sa suite soient extradés, puisque comme nous savons, on ne sait pas pourquoi l'Ouganda, même vous avez suivi le vice-gouverneur, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, et dire que les chiffres avancés par l'Ouganda, qui faisant état de 1600-1700 éléments, semblent être en quelque sorte une façon de fausseter justement pour faire en sorte que de faux éléments puissent intégrer et filtrer notre armée. Alors, en tout cas, je ne peux pas croire vraiment à la bonne foi de l'Ouganda en passé, quand bien même. Mais ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est de demander à la communauté internationale dans son ensemble de faire pression justement sur l'Ouganda, peut-être en faisant cela, qu'on peut obtenir gain de cause.
Voilà, merci beaucoup Marcel. Nous revenons à vous, Maître Guy Mouchata. Vous avez suivi les uns et les autres. Au fait, en gros, ce qui est en tout cas le nœud de leur préoccupation, c'est que cette extradition puisse être faite de bonne foi du côté de l'Ouganda. Mais Maître Adrien a insisté de savoir si réellement la RDC a déjà fait officiellement, elle a déjà fait la demande officiellement.
Bon, je ne saurais pas répondre aux confrères pour dire que la RDC en a déjà officiellement fait la demande, parce que je n'ai pas, en préparant cette émission, je n'ai pas pu avoir un élément confirmant ou infirmant cela. Mais toujours est-il que c'est sur quoi il faut insister, c'est justement sur les éléments de procédure, parce que l'extradition est quelque chose qui obéit à une procédure. Et cette procédure demande justement, comme je disais tantôt, qu'il y ait un accord signé entre les deux États. Et puis l'autre chose sur laquelle je vais beaucoup insister, c'est le fait de dire que si on refuse d'extrader, on doit soi-même juger. Parce que c'est aussi possible que justice soit faite pour ce type de crime par l'État au sein duquel se trouve l'individu, l'État où la personne s'est réfugiée. Parce que les crimes dont il est question sont de portée universelle. Et quand nous parlons des crimes de guerre, ces crimes de tous les États ont l'obligation de poursuivre les criminels de guerre. Et même, il y en a qui poussent plus loin, vous savez, au regard de la compétence universelle que certains États se sont accordés, et il y en a qui, n'est-ce pas, poussent plus loin pour juger même des gens qui ont commis des crimes sans lien direct, donc ceux qui, les juges pourront bien comprendre, sans un lien qui puisse enclencher le processus. Donc si l'Ouganda n'a pas un accord d'extradition, je ne l'ai dit pas, je n'affirme pas, mais j'ai vérifié un tout petit peu dans de différents dans le code d'Arcier un peu partout. Je n'ai pas vu formellement qu'il existe un accord d'extradition, mais c'est possible parce que c'est au niveau peut-être des affaires étrangères ou du ministère de la Justice, il faut vérifier la situation encore. S'il n'y a pas un accord d'extradition, ceci n'exonère en rien l'Ouganda de son obligation par sa libre volonté, par exemple, de faire la remise d'abord de la personne, ça c'est de un, ou de deux, de pouvoir traduire cette personne devant sa justice. Donc, si on ne juge pas, si on n'extrade pas, on est tenu de juger. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, je pense que le besoin de justice est pressenti au niveau régional. Et quand l'accord, justement, d'Addis Abeba demande aux États signataires de prendre des mesures, moi, ma réflexion est celle-ci. Et n'est-il pas possible qu'au niveau de la RDC, de l'Ouganda, du Rwanda, qu'on puisse envisager un mécanisme juridictionnel qui serait de portée internationale et qui permettrait justement de juger toutes ces personnes responsables des crimes, je dirais, en quelque sorte, qui transbordent les différentes nations, qui transbordent donc ces différents pays. Mais je pense que là, il faut beaucoup de volonté politique et aussi une pression, pas seulement la pression, mais aussi une volonté de la part du Conseil de sécurité de pouvoir pousser peut-être à une telle mesure, à défaut que les États ne puissent eux-mêmes prendre des mesures particulières, n'est-ce pas, pour procéder aux poursuites à l'encontre de toutes ces différentes personnes.
Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons comprendre quelques messages venus des auditeurs. Il y a Steve Moussessé qui dit qu'ils répondent de ces actes, sinon les autres feront presque la même chose. Adrien Mouenemali, depuis Kalemi au Katanga, dit le gouvernement doit obliger l'Ouganda de lui livrer Makenga avant toute signature, car c'est un civique congolais. Il doit être jugé par la justice congolaise et cela pour décourager ses semblables. Baraka Tsongo, que justice soit faite cette fois-ci. On ne doit pas chaque fois répéter l'histoire, comme ce fut le cas avec Moutebousi, Kounda Batware et tant d'autres, car c'est faire du sous-place. Christophe Dawila Gemena, Makenga doit être jugé pour tous les crimes commis en RDC. Il n'est pas le seul. Nous savons que Kounda, Runiga et les autres ont fait la même chose. Dieudonné Nze à Mbandaka, c'est un seigneur pour simplement distraire les autorités congolaises. Ces gens ont rendu beaucoup de familles de l'Est pauvres et malheureuses, donc les négociations ne veulent plus à rien. Il faudrait que Sultani soit extradé. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Merci, nous vous accueillons. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez la parole, Maurice.
Bon, j'ai permis, avant même que je parle de l'extradition, je puisse d'abord aux auditeurs.
Voilà, nous avons des petits soucis avec votre ligne téléphonique, Maurice. Je crois que si vous pouvez peut-être sortir de là où vous êtes, et ça pourrait nous permettre d'avoir une bonne communication. Hein. Et puis, bon, sinon, peut-être changer de position, le temps de prendre d'abord Michel, et puis on revient à vous, Maurice. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juer.
Vous avez la parole.
Oui, je voudrais commenter, mais seulement, je suis un peu malheuré. Parce que j'ai constaté où on dirait que les Congolais oublient les choses facilement. Vous savez, l'autre fois, j'ai suivi une information par vos propres antennes qui disait que les rapports mapping devaient intéresser tous les Congolais. Pourquoi je le dis? Parce que ça devait être la source. Mais vous connaissez l'histoire, on dit que les rapports mapping étaient bloqués au niveau du Sénat. La raison était parce qu'il a été constaté que plusieurs des criminels étaient dans nos institutions. Aujourd'hui, on se donne le luxe de voir ce qui est d'abord à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous faisons de ceux qui sont à l'intérieur? Est-ce que croyez-vous vraiment que la paix reviendra lorsque nous savons qu'il y a des mercenaires dans notre propre pays? Moi, j'avais souhaité que les rapports mapping puissent être d'abord considérés. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Création des tribunaux internationaux pour juger les criminels dans la République démocratique du Congo. Ça soulagerait tout le monde.
Oui, oui, Michel.
Comment vous voulez chercher Makenga?
Oui, Michel, s'il vous plaît. Ah, oui. Il y a notre invité qui a proposé, hein, qui faisait aussi une réflexion avant vous, je crois que vous l'avez suivi, et qui a même proposé, si cela peut s'étendre au niveau de la sous-région ou de la région, qu'on puisse trouver une instance juridique qui pourrait, au fait, constituer exactement la réponse à ces problèmes, à toutes ces difficultés que nous traversons au niveau de l'Est du pays ou au niveau de la sous-région. Donc je crois que c'est ça rejoint pratiquement votre préoccupation et votre idée.
Parce qu'il a soutenu une rébellion. Ça, les Congolais le savent. Mais moi, je trouve ça anormal. Aujourd'hui, on veut bien chercher les petites têtes. Par contre, nous savons que Kagame et Museveni sont là les pions. Mais pourquoi ne pas initier un mandat d'arrêt contre ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, Makenga peut disparaître. Mais ces gens peuvent utiliser d'autres personnes. Moi, je crois, nous devons nous aimer. Si nous nous aimons, je crois, parce que vous savez les vies qu'ont coûté nos frères à l'Est. Et ce n'est pas une chose qu'on doit balayer comme ça. Je crois, Kagame doit répondre, Museveni doit aussi répondre.
Voilà.
Aujourd'hui, voilà, c'est un lien que la République démocratique du Congo pour initier. des poursuites judiciaires contre ces personnalités. C'est à nous que nous aurons la paix.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé de Matadi. Nous revenons à vous, Maurice. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Vous avez la parole.
Bon, j'ai dit ceci. Vous savez que dans cette guerre, il y a des implications, comme je l'ai toujours dit, hein, à travers les rapports des experts des Nations Unies. Il y a des rapports qui épinglent les Rwandais, les soutiens du Rwanda comme de l'Ouganda. Vous avez vu que Runiga s'est réfugié après, je crois, ce qui s'est passé, l'aventure qu'il y a eu entre les deux factions là de M23. Vous avez vu que Runiga est allé, il est rentré chez son maître au Rwanda. Et pendant ce temps-là, il y avait même un débat sur une possibilité d'extradition de Runiga. Et de la même manière, ça se passe aujourd'hui, que ces gens-là, sur instruction de gens, donc des vrais faiseurs de cette guerre, ont déposé les armes. Parce que les gens s'amusent à dire qu'ils ont été défaits, je ne sais pas qui. Mais il est rentré encore chez son maître, Makenga est rentré chez lui encore, chez son maître, pour faire rapport après une mission bien accomplie. Et bientôt, il y a une récompense de la signature de l'accord, dont certains s'amusent à dire que c'est une simple déclaration. C'est un accord qui donne un peu de pouvoir, qui récompense quand même
Maurice, ne mettons pas la charrue devant le bœuf, parce que nous ne savons, nous sommes pas dans les secrets de Dieu pour connaître les tenants et les aboutissants, ni le contenu de cet accord ou déclaration, mais nous attendons peut-être dans les heures qui suivent, nous connaîtrons tous la vérité par rapport à cette démarche. Ben voilà, donc pour le moment, si je comprends bien, vous émettez un peu quelques doutes, hein, quant à l'extradition de Sultani Makenga, à croire ce qui s'est passé pour ceux qui ont précédé à la tête donc de différents mouvements de rébellion et qui sont soit au Rwanda ou soit en Ouganda, qui n'ont jamais été extradés. Ben voilà. Merci beaucoup, oui. Maurice, d'avoir appelé.
Non,
En 30 secondes, Maurice.
Vous voyez que l'intervenant de tout à l'heure, Michel, avait bien raison.
Oui, il a parlé du rapport Mapping.
On a des gens ici pour quelle justice ? Est-ce qu'il y a une justice dans ce pays pour
notre invité est revenu aussi sur ça. Il a insisté pour dire la mise en place d'une justice qui pourrait, au fait, constituer une réponse à tous ces problèmes. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous les visiteurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Ismaël.
Moi, je suis vraiment émis de joie à cette tradition. Mais il se peut qu'il y a un problème au niveau de la justice congolaise et au niveau de la force militaire. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Jusqu'à on avait demandé l'aider brigade au niveau de la haie. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait donné la réponse par le ministre de la Communication qu'on ne devait pas traduire ces milices au niveau de la haie. C'est-à-dire que c'était la justice de la RDC qui devait puceler d'abord ces inciviques. Aujourd'hui, nous avons émis des joies concernant cette affaire. Qu'est-ce qu'on devait faire? On va d'abord renforcer la force militaire et pour qu'on ne puisse jamais intégrer n'importe qui que ce soit au niveau de l'armée. Moi, personnellement, je crois que ce sont nos propres militaires qui trahissaient notre pays. De ce fait, on va d'abord faire un diagnostic précis au niveau de la force militaire en vue qu'il n'y ait pas aussi l'introduction de n'importe qui que ce soit ou qu'il n'y ait pas aussi la trahison au niveau de la force militaire. Je demanderai aussi à ce qu'il y ait aussi une force militaire comme la base militaire comme il existait auparavant. Là, on avait une force qu'on ne devait jamais comparer au monde. Et quand Paul Kagame s'était rigolé de Barack Obama en disant que je regrette d'avoir dit que je finirai avec la guerre de l'Est. C'est pour cette raison qu'on dirait que cette guerre était d'abord pour Timorais. Comme le Ouganda et le Rwanda ont eu d'abord une bonne volonté de traduire ou d'arrêter ces inciviques, nous avons compris qu'il n'y a pas la complicité. Et que le gouvernement de la RDP renforce aussi la force au niveau de la frontière. Si on va renforcer au niveau de la frontière, demander à qui que ce soit pénétrer à notre pays, ça va avoir lié. Plutôt que le fait qui que ce soit pénétrer et bouleverser notre pays. Je suis vraiment mis de joie et nous pensons que la stabilité en fond du pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Ismaël. Gauthier Madika dit c'est un bon signe qu'il se soit rendu et l'État congolais devra s'investir davantage dans la recherche des éléments du M23 jusque-là perdu dans la nature car il pourrait se réorganiser pour retourner avec les bavures. Aussi faudra que les pourparlers de Kampala aient une bonne issue. Voilà, on va terminer avec vous Maître Guy Mouchata. Maître Guy, vous êtes avec nous. Voilà, on va ramasser les interventions des uns et des autres et puis on va conclure ensemble avec vous pour nous faire une idée. Pour, si vous pouvez encore revenir sur cette question que nous avons posée en début de cette émission, est-ce possible l'extradition, est-ce que ça sera encore possible l'extradition de Sultani Makenga au regard de ce qui s'est passé avec ceux qui l'ont précédé, notamment Kounda Batware, Uniga et tant d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui les peuples congolais peuvent espérer que effectivement ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité pourraient être jugés un jour et répondre de leurs actes?
Oui, merci. Mais d'abord, rapidement, une réponse à Michel qui parlait du Sénat. Au niveau du Sénat, ce n'était pas les rapports du mapping en tant que tel qui avaient été rejetés, mais c'est plutôt le projet de loi qui voulait mettre en place une cour spécialisée mixte pour justement faire la suite judiciaire des crimes évoqués dans les rapports mapping qui n'a pas pu aboutir. Et ensuite, notre ami Ismaël, ce qu'il dit est très important. Je pense que le gouvernement congolais doit prendre des mesures de vetting, en fait des garanties qui font que ceux qui ont commis des violations graves ne puissent jamais être dans l'armée ni dans la police et exercer donc des fonctions dans les systèmes sécuritaires. Ça, c'est très très important. Alors, pour revenir à la question et conclure, serait-ce possible que ces gens-là soient extradés? Je pense que il ne faut pas parler en termes de possibilité, mais il s'agit plutôt d'une obligation que ces gens-là répondent de la justice, qu'ils répondent devant la justice nationale ou dans la justice ou le pays, dans leur pays d'accueil. Ou bien plutôt avec l'aide de la Cour pénale internationale, maintenant ces gens peuvent être donc traduits en justice devant la Cour si au moins le mécanisme de renvoi ou de leur poursuite sont enclenchés. Mais notre avis est que aussi on doit réfléchir au niveau régional, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place un mécanisme juridictionnel qui puisse juger des personnes qui commettent des violations graves au niveau des pays des Grands Lacs. Mais la RDC, qui est directement préoccupée, ne doit pas baisser les bras, doit faire un effort pour renforcer sa justice nationale et arriver effectivement, aussi bien pour le présumé criminel à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui ont commis des graves violations des droits de l'homme doivent en tout cas faire face à la justice pour une consolidation de la paix.
Maître Guy Mouchata, merci d'avoir été de nôtre. Nous rappelons que vous êtes chargé de programme lutte contre l'impunité et justice réparatrice et transitionnelle au Centre international pour la justice transitionnelle. À très bientôt.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette production. Merci à Héritier Sidia Kala qui, pour la mise en onde de cette émission réalisée par Teti Mputu et Nadine Foula. Une émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi, la fréquence de la paix.